à la dernière minute, l'atelier 1, sémantique et langage de la guérison, et l'atelier 2, les quêtes de la guérison, puisque il y a des absents de inopinés de dernière minute, à savoir Mathieu Bujol, et puis ici Fatoumata Anne, Sariette Batibonac. Bon, c'est pas grave, on va quand même travailler et je pense entendre des choses intéressantes. Donc on va entendre tout d'abord Sylvia Rossi.
Je me présente.
Qui se présentera, moi, si tu veux. Et puis Gauthier Nguyen. Et puis Simon Wang. 20 minutes chacun, si c'est possible. Et puis ça nous laisse le temps à chaque fois de faire 10 minutes de discussion. Est-ce que vous préférez faire la discussion après chaque... on peut prendre la décision collectivement. Après chaque intervention ou bien... trois interventions d'affilée, ça peut être tenable, donc on fait une discussion collective à la fin, comme vous, qu'est-ce que vous préférez?
Moi je trouve que souvent en fait, si on fait une discussion collective, on perd du coup des questions précises pour des intervenants pour qui ça peut être utile, donc moi je serais plus pour une discussion rapide après chaque intervention.
Ok, donc on fait 20 minutes puis 10 minutes de discussion. Donc Sylvia, merci.
Merci et merci à toi. Donc, merci à vous de m'avoir accueilli ici. Donc, Sylvia Rossi, je suis de Hong Kong en littérature italienne. Je suis italienne. Je travaille en particulier sur les autobiographies des malades atteints de cancer et la communication que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est après le cancer que deviennent les anciens malades. Donc, je suis ravie de l'introduction de Marie Ménoré ce matin parce que ça me permet de stocker toute une introduction sur le fait que la guérison en oncologie, c'est un mot qui est rarement utilisé, qui est difficilement utilisé par les médecins. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus d'appréhender les problèmes du point de vue des patients. Et pour cela faire, je m'appuie sur des autobiographies des malades, écrivains et journalistes italiens qui ont publié leur autobiographie de malades de cancer, en Italie de 1992 à aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour voir quelles sont les métaphores mobilisées pour définir les personnes qui ont eu un cancer et comment ces anciens malades peuvent se définir par rapport au fait d'avoir survécu au cancer, je pense qu'il est nécessaire de voir quelle est la métaphore qui est la plus utilisée lorsque on parle de cancer. C'est un peu banal, mais je souhaite commencer avec une citation de Susan Sontag, qui dans La maladie comme métaphore, en 1997, disait « La maladie est depuis longtemps associée à des notions de représailles particulièrement actives en matière de cancer. » Donc le langage est celui de la lutte, de la bataille, de la croisade. Et les métaphores qui s'imposent dès que l'on parle du cancer sont tirées non du vocabulaire de l'économie, mais de celui de la guerre. Tout médecin ou tout malade, un peu attentif, est sinon blasé, du moins familiarisé avec cette terminologie militaire. En effet, c'est une métaphore qui devient un cliché et qui a été introduite in primis par le monde de la politique et par les médecins. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir et de souligner comment ça a été avec la guerre au cancer déclarée par Nixon en 71, qu'on a commencé à parler de guerre au cancer, comment ce vocabulaire a été utilisé par les médecins et comment finalement c'est arrivé aux patients. Donc pareil, on n'a pas le temps de revenir sur les tabous liés au cancer, au fait que cette maladie est rarement narrée, qu'aujourd'hui on commence à en parler librement. Mais c'est vrai que du moment où le cancer a été longuement caché, le moment venu d'en parler a été le moment de le décrire comme une guerre, comme une bataille, comme quelque chose contre lequel on livre un combat. Et un exemple de cette situation est une citation de Fritz Zorn dans Mars, qui termine son récit. Je ne sais pas si est vraiment connu, mais de toute façon, il est très connu lorsqu'on parle de littérature liée au cancer. Il termine en disant « Je n'ai pas encore vaincu ce que je combats, mais je ne suis pas encore vaincu non plus. Et ce qui est le plus important, je n'ai pas encore capitulé. Je me déclare en état de guerre totale. » Donc, c'est vraiment un langage de guerre et de combat. quelles sont aujourd'hui les figures qu'on peut trouver dans ces guerres au cancer? Comment le patient lui-même, il se voit, il se décrit, il se rapporte au cancer? La première figure qu'on trouve est celle du héros. Donc je cite ici Pietro Calabrese, auteur complètement inconnu en France, plutôt connu en Italie, il était journaliste sportif atteint d'un cancer du poumon en 2004, qui a été déclaré inopérable et qui a été par la suite soigné par chimiothérapie et radiothérapie. Au début de son récit, il se présente, donc il se décrit, il décrit le rôle dans lequel il se place comme celui du héros. Le héros qui s'élève et combat au nom des forces du bien contre les groupes du mal, le héros qui peut perdre et qui est peut-être destiné à la défaite, mais qui est pur, sans cache et sans hésitation. Donc lorsqu'on part en guerre contre le cancer, le patient est d'abord un héros qui combat le mal absolu. C'est un peu le même lexique qu'on retrouve chez un autre écrivain, Giacomo Cardacci, qui en 2010 élargit sa description de malade qui se bat contre le cancer à tout l'ensemble des patients. Donc il décrit une armée de patients qui livrent un combat contre le cancer. Il les décrit non pas avec l'uniforme vert, mais en pyjama en coton. Il est décrit comme des hommes, des femmes, des soldats, riches et, ou pauvres. Parfois, malheureusement, des enfants soldats ou des bébés soldats sont injustement envoyés au front par un corps qui les a crampés de l'enfance. Donc on reste dans le registre d'une armée qui livre un combat contre le cancer. Et la troisième figure qu'on retrouve dans cette guerre est celle de la victime. Justement, lorsqu'on est en guerre, on est soit un héros, soit un guerrier, un combattant, soit on est une victime. Tiziano Terzani, aussi journaliste diagnostiqué d'un cancer en 1999, il raconte dans son autobiographie qu'il se questionne au début de son autobiographie quelle alternative avais-je à part celle de jouer la victime ou de ne pas la jouer. Par instant, je préférais ne pas la jouer. Donc lorsque on part en guerre contre le cancer, on a donc un héros, un guerrier ou une victime. Qu'est-ce qu'on devient lorsque la guerre est finie? La définition qu'on évoquait aussi ce matin, que moi j'ai repris banalement de la présentation du National Cancer Institute, est celle de cancer survivor. Donc la définition qu'on donne à tous ceux qui ont été diagnostiqués d'un cancer du moment du diagnostic et pour tout le reste de leur vie. Donc une définition qui inclut toutes les personnes qui ont eu un cancer et qui ont vécu le cancer et du moment où ils ont découvert d'avoir la maladie. Il est vrai que cette définition est très claire, par contre elle met vraiment l'accent sur le fait d'avoir été diagnostiqué d'un cancer et sur le fait d'être parti en guerre, de l'avoir vaincu ou alors d'être mort dans cette bataille. Donc on n'est plus des cancer survivors, on est mort dans la bataille contre le cancer. Une définition dans laquelle aujourd'hui, de plus en plus, les malades ne se retrouvent plus. Le fait est que, comme je disais au début, c'est que la métaphore de la guerre ne vient pas directement des malades, mais qui est plutôt imposée par le corps médical et par la politique. Elle est très mobilisée par les malades, c'est d'ailleurs la seule métaphore qui est mobilisée régulièrement dans tous les récits que j'ai pris en considération. Mais du fait qu'il y a des changements dans les thérapies, il y a des améliorations thérapeutiques, donc le cancer peut être chronicisé, cette métaphore n'est plus suffisante. Il est difficile de rester en bataille pendant 5, 10, 15, 20 ans lorsqu'un cancer est chronicisé. Et il est aussi difficile de se définir en tant que personne comme cancer survivor et de réduire sa propre identité à... au fait d'avoir eu un cancer et d'être encore en vie. Et ce sont ces deux raisons que je vais essayer de démontrer être à la base au fait que dans les autobiographies des malades de cancer, il y a des figures autres qu'on commence à retrouver aujourd'hui. La première de ces figures, donc on revient à Pietro Calabrese, et comme je le disais, c'est un journaliste sportif. Donc il compare son rapport au cancer non pas à une guerre, certes à une guerre parfois, mais aussi à un match de foot. Et il dit « faire match nul » signifiait que la tumeur serait risquée dans le camp pendant des années, tout sage, ça me dérangeait. Donc une bataille, on peut la vaincre, mais on peut aussi la perdre. Lorsque le diagnostic est pessimiste, il est difficile au début du parcours des soins d'accepter pour un malade que ses possibilités de gagner le cancer sont très réduites ou inexistantes. Et l'effet de mobiliser une métaphore ocre permet des options comme le match nul qui permet de cohabiter, coexister, vivre avec la maladie. Chose que le lexique de Bataille ne peut pas vraiment faire. À côté de la métaphore sportive, il y a une deuxième option, celle de se voir comme un voyageur qui a plusieurs passeports. Alors, je reviens à Susan Sontag qui parle de double nationalité. Lorsque toujours dans la maladie comme métaphore décrit et se décrit, elle dit en naissant, nous acquérons une double nationalité qui relève du royaume des bien-portants comme de celui des malades. Et bien que nous préférions tous présenter les bons passeports, le jour vient où chacun de nous est contraint, ne serait-ce qu'un court moment, de se reconnaître citoyen de l'autre concret. Donc il y a une claire opposition entre être bien portant et être malade, et chacun de nous a les deux passeports. Toujours à cause des avancées, des heureuses avancées thérapeutiques qu'il y a eu aujourd'hui contre le cancer, cette définition devient compliquée à mobiliser lorsqu'il y a beaucoup de cas hybrides où les personnes ne sont plus vraiment malades mais ne peuvent pas être vraiment considérées guéries. Donc, je m'appuie sur la définition de Arthur Frank, qui en 2013, dans Le narrateur blessé, reprend la définition de Susan Sontag et la change un peu, la modernise quelque part. En parlant des malades qui ont connu le cancer, il dit qu'ils ont obtenu un visa qui doit être par contre être périodiquement renouvelé. Le triomphe de la médecine moderne est de permettre un numéro grandissant de personnes qui se remorquent de prétendre un visa en vivant dans le monde des bien-portants, même s'ils sont sous menace d'expulsion. Donc il n'y a plus une dichotomie entre bien-portants et malades, deux mondes différents avec une frontière bien précise. Il y a plutôt la possibilité de voyager, même en étant malade, avec un passeport et un visa dans le monde des bien-portants. Donc il y a des allers-retours qui se font et qui deviennent possibles. Cela, on le retrouve toujours dans l'œuvre de Calabrese qui se définit une sorte de travailleur saisonnier de la vie. Je suis renouvelé tous les 3 mois. En effet, même le patient qui a fini la phase aiguë des traitements vit sous menace d'expulsion du monde des biens portants dans la mesure où il peut vivre dans ce monde, mais il est régulièrement vérifié son état de santé soumis à des contrôles tous les 3 mois dans le cas de Calabrese, 6 mois parfois, peu importe. Mais c'est l'idée d'appartenir, intégrer, revenir au monde des biens portants, mais sans être complètement appartenant à ce monde, d'être un malade qui a une permission de voyager dans ce monde. Il y a aussi une deuxième raison que j'ai citée au début pour laquelle le fait de définir cancer survivor les personnes qui ont connu un cancer réduit un peu la définition de ces personnes. C'est le fait que le cancer est une expérience grave dans une vie, évidemment, et cela provoque des changements qui veulent être intégrés par les patients dans leur parcours de vie. Donc, le cancer, sans arriver forcément à la rhétorique du don qui est parfois mobilisée, mais qu'on ne retrouve pas si souvent que ça, est quand même vu comme un obstacle ou un événement qui permet un changement qui amène la personne qui a eu le cancer à changer. Et il y a une interrogation que les patients se posent. Voudrais-je être à nouveau l'homme d'avant? Le titre de la diapositive m'écraille un peu. La réponse est non. Les personnes qui ont eu le cancer souvent se considèrent des personnes meilleures dans la mesure où c'est une expérience qui fait grandir, qui donne une expérience différente, qui apporte quelque chose. Donc, toujours Calabrese, qui désormais est aussi pour vous familier comme nom, au début de son autobiographie, dans l'introduction, il réfléchit sur les mots des médecins. Les médecins ont beau dire qu'il faut se comporter normalement et avoir une vie normale lorsque les traitements sont finis, la même qu'avant. c'est n'importe quoi. Normaux, on n'est jamais nouveau. On est différent, une autre chose, souvent meilleure, plus conscient, plus doux. Mais rien n'est plus comme, comme avant. Je reviens donc sur ce fait que les personnes qui ont eu le cancer, je vais essayer de mettre ensemble les deux définitions qu'on a vues, celle d'un voyageur qui revient dans le monde des biens portants et celle de l'identité transformée qui propose, qui amène un changement et qui fait des personnes ayant eu un cancer, des personnes transformées quelque part meilleures. Qu'est-ce que ces personnes deviennent? Et encore, ça m'a beaucoup parlé à la conférence d'introduction lorsque on se disait que ces personnes qui ont connu un cancer et qui sont encore en vie n'ont aucune visibilité. Elles ne sont pas reconnues au niveau de la société. Et Arthur Frank, en 2013, il parlait de lui-même. Il ne parlait pas spécialement des malades de cancer, mais de toutes les personnes qui ont eu une maladie grave. Il dit que ces personnes qui, comme moi, étaient effectivement bien, mais ne pouvaient pas être considérées guéries, ces personnes sont tout autour, mais souvent invisibles. Et ces personnes représentent celles qu'il appelle de Remission Society. Je vais vous éviter mon accent anglais, puisque déjà je sais que j'ai un accent quand je parle français, donc je vous laisse voir la définition anglaise, c'est la plus claire de la traduction que j'ai essayé de faire. Mais Arthur Frank ressent l'exigence effectivement de définir ces personnes transformées différentes qui, dans le monde des biens portants, n'ont aucune visibilité. Et c'est une interrogation qu'on retrouve dans les autobiographies. L'ancien malade cherche les personnes qui, comme lui, ont vécu la même expérience. Il les cherche autour de lui et il ne les trouve pas. Et pourtant, ces hommes, les meilleurs, sont invisibles. Mais où sont les hommes meilleurs, les combattants, les anciens combattants qui ont gagné leur bataille? Donc, je n'ai pas répété la même citation. Je voulais vraiment revenir sur la deuxième définition parce qu'une chose importante avant de s'approcher de la conclusion est de mettre en évidence que toutes ces figures qui se dégagent dans les autobiographies des malades ne vont pas substituer le lexique de guerre qui est largement employé, mais souvent il y a une cohabitation. Il y a des phases que dans mes travaux je n'ai pas pu identifier, ce n'est pas des phases chronologiquement précises. À un moment on est des combattants, à d'autres moments on essaie plutôt d'être des voyageurs ou des personnes avec une identité différente. Ce sont des métaphores qui sont mobilisées en même temps. Comme dans cette phrase, les combattants qui ont combattu le cancer, qui ont gagné leur bataille et qui sont encore en vie, qu'est-ce qu'ils deviennent, où ils sont? Ils sont des appartenants à cette Remission Society qui est pourtant invisible. On a là donc cette exigence de se décrire, de se représenter, qui ne trouve pas, qui a une exigence, mais qui trouve une définition, mais qui n'a pas de visibilité. Et qui demande aussi à que ça soit mieux défini et que quelque part ces malades soient pas vus tout simplement par des survivants du cancer, mais aussi comme autre chose. Donc la complexité de ces figures soit prise en compte. Donc la définition des cancer survivors qu'on a vue est mise en question. Donc comme je le disais, c'est pas que la métaphore de Baquet qui peut décrire les malades qui connaissent le cancer. Survivre ne comporte aucune responsabilité particulière autre que celle de continuer à survivre. Et c'est ce que propose la métaphore de la bataille. Par contre, la définition que Arthur Frank propose est celle de devenir un témoin. Une définition qui est, à mon avis, une définition qui a l'avantage d'inclure toutes les figures que nous avons vues tout à l'heure, car ça implique la responsabilité de dire ce qu'il s'est passé. Le témoin met en parole une vérité qui est normalement inconnue ou réprimée. Donc, le malade de cancer est une source pour la société dans la mesure où son expérience des maladies, son voyage dans le royaume des malades lui apporte quelque chose et son visa qui lui permet de revenir dans le monde des biens portants permet d'échanger, de traverser la frontière et de rendre quelque chose à la société grâce au témoignage. Les personnes qui racontent les histoires des maladies sont des témoins qui transforment la maladie en devoir moral, d'où la nécessité de ne pas limiter la définition de ces personnes à des survivants, mais de prendre en compte l'exigence de ces malades de se décrire aussi comme des voyageurs, des hommes meilleurs, des personnes qui ont joué avec le cancer et qui sont encore en vie pour le raconter, et de prendre en compte leurs témoignages pour que ça revienne quelque part à la société et la frontière qui sépare le monde des bien portants et celui des malades soit franchie et permette un échange et n'implique pas une exil des malades dans le monde des malades. Donc j'ai encore 3 minutes, mais c'est effectivement ma conclusion. Je voulais juste rajouter merci de m'avoir écouté. Alors je crois que j'ai parlé un peu vite, donc si je n'ai pas été claire sur certains passages, je vais bien à vos questions. Il n'y en a pas encore mieux.
Ouais, allez-y.
Dans cette discussion du cancer, on ne fait pas de différence entre les cancers très sévères et les cancers un peu plus légers. Hein? C'est ça que nous manque.
Alors, il n'y a effectivement pas. Il n'y a pas de différence entre les cancers avec un pronostic pessimiste et les cancers pour lesquels les chances de survivre étaient meilleures. Je ne me suis pas posé la question dans ce terme, j'avoue, même si effectivement il y a un cancer du poumon dans le cas des Calabrese et il y a un cancer, une maladie de Hodgkin dans le cas des Cardacci, donc visiblement le pronostic est différent. Je pense pouvoir répondre à votre question quand même, parce que je me suis posé la question, est-ce que le langage change lorsque, à un moment de son autobiographie, le malade comprend qu'il doit la finir parce que son pronostic est vraiment pessimiste et parce que vraiment la mort est sa destination. Et par contre, ceux qui voient qu'effectivement le pronostic est plus positif. Et je ne sais pas si c'est un manque d'attention de ma part, si je n'ai pas encore trouvé la bonne piste, mais pour l'instant, je n'ai pas pu trouver les différences. Il y a des métaphores qu'on retrouve, il y a un langage qui peut être positif ou négatif selon les phases, mais il n'y a pas vraiment de figure. Je ne sais pas s'il s'agit d'un tabou lié à la mort. Je m'interroge là-dessus, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant.
Alors, il y avait là, et puis après Aline.
Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je voudrais juste vous poser une question par rapport justement à la difficulté de trouver une communauté et même de que les personnes puissent reconnaître dans une communauté de survivants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité par rapport aux gens qui ont survécu du cancer. Et justement, comme vous venez mis en avant aussi par l'argumentaire, il y a aussi la question de l'oubli comme situation liée aussi à une guérison, une espèce de mécanisme par lequel, dès qu'on est guéri, dès qu'on se sent guéri, on est défini guéri, on n'a pas besoin de se reconnaître dans la catégorie des ex-malades non plus. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette question?
Mais je pense qu'effectivement, ça doit être vrai pour d'autres pathologies, mais le cancer a vraiment un souci de définir les anciens malades guéris. Même pour les cancers qui sont moins sévères, on n'utilise presque jamais, même les médecins, ils n'utilisent presque jamais le mot guérison. Les anciens malades se retrouvent plutôt que guéris, définis des cancer survivors ou des survivants. Le fait déjà que même en français, on utilise souvent cancer survivor et en italien aussi, démontre qu'il y a effectivement un manque d'une terminologie, et il y a une difficulté à définir ces personnes, mais l'oubli lié au fait que ces malades sont guéris, de toute façon, les contrôles pour un ancien malade de cancer restent toute la vie. Donc, rien que l'idée d'un visa renouvelé reste plus valable et plus adaptée que celle d'être défini guéri et libéré de.
Donc,
de la maladie.
Il n'y a pas d'association des personnes qui sont guéries du cancer, qui se reconnaissent en tant qu'une communauté ou...
Une communauté de guéris
Non, tu as des associations non plus qui... D'accord.
Enfin, pas que je sache après. Hein.
Peut-être que, voilà, vous pouvez rebondir là-dessus.
Ah, moi, je ne travaille plus. je pourrais répondre à votre question de façon pas détournée, mais les associations qui existent sont par exemple des associations de personnes qui ont des séquelles encore invalides, genre injectomisées, stomisées. Vous avez aussi des associations plus génériques comme la Ligue, etc., etc., avec des associations de patients. C'est vrai qu'en France, c'est pas un thème extrêmement développé par rapport aux pays anglo-saxons. Mais ils existent. De là à dire qu'ils se revendiquent comme personnes guéries ou survivantes, ça, c'est quand même pas une franchise.
Il y avait une question d'Aline.
Moi, donc là, dans les récits que vous avez étudiés, donc de maladies, vous avez parlé essentiellement, enfin, vous avez trouvé essentiellement ces métaphores guerrières, etc. Et moi, je voulais savoir si vous aviez trouvé des récits de personnes qui vivent comme avant. Enfin, je ne sais pas, là, parce que cette notion de vivre comme avant, la petite sœur française de Rich for Recovery, elle s'appelle justement...
Vivre comme avant.
Je ne sais pas en Italie comment elle s'appelle. Mais, d'ailleurs, il y a Coralie Cogiulo qui va nous présenter tout à l'heure quelque chose là-dessus. Et donc, est-ce que vous avez des récits de personnes qui...
Ah oui, merci pour la question, parce qu'effectivement, il y a un cas, donc, je ne sais pas si vous êtes italien, non? Oui, donc du coup, vous connaissez peut-être la Cristina Piga, donc c'est un récit d'une personne qui a eu un cancer, et qui, dans les conclusions de ce livre, s'interroge effectivement sur qu'est-ce que le cancer lui a fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, et elle trouve d'être exactement la personne d'avant. Elle le dit, elle le manifeste, qu'elle se décrit comme le cancer ne m'a rien fait. Je suis la personne d'avant, je suis maman, je suis une avocate, je suis une femme, je suis une amie, je ne suis pas meilleure, je ne suis pas ironique, je ne suis pas capable de déconnecter des problèmes du quotidien en me disant la vie c'est autre chose. Et l'interrogation est tellement forte qu'on voit vraiment la pression qui est aussi liée au fait d'avoir eu un cancer et donc de savoir en tirer quelque chose. Elle culpabilise presque de ne pas de pouvoir vivre comme avant. Et c'est effectivement le seul cas. Les autres cas que j'ai analysés, c'est plutôt dans l'optique de, voilà, c'est souvent des personnes qui, déjà, le fait d'écrire une autobiographie consacrée au cancer fait que, oui, la maladie fait quelque chose, apporte quelque chose, il y a un besoin d'en parler encore, de faire une mise en sens de cet événement et de voir qu'est-ce que ça peut apporter. Et la plupart, ce sont aussi des personnes qui, à côté, sont engagées dans des associations, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a un exemple, et, enfin, c'est le seul que moi je connais, mais ça veut dire que visiblement, il y a des personnes pour lesquelles...
C'est un discours social qui est quand même assez fort, quoi, au travers de ces associations.
Je n'ai pas compris, excuse-moi.
C'est un discours social aussi, qui est, et même médical, qui est porté actuellement. Quoi, je veux dire,
ah oui.
La métaphore guerrière, en tout cas dans le discours médical, est complètement dépassée. En revanche, vivre comme avant, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu comme un leitmotiv dans le discours des médecins.
Oui, après, pas dans le discours des patients. Et, oui. Enfin, j'ai du mal à me prononcer sur le discours des médecins parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'éléments là-dessus. Mais c'est vrai que dans le discours des patients, ce n'est pas celui qui est prédominant. Mais...
Encore deux questions, une seule question et on passe à la présentation suivante.
Je voudrais juste savoir quel type de cancer avait cette personne.
Celle qui voulait vivre comme avant, oui. C'est un cancer du côlon.
D'accord.
Pardon. Donc Ashley et puis...
Oui, moi je me demandais si vous avez recueilli dans la littérature en fait des discours beaucoup plus politiques, critiques. Et questionner sur, en faisant une comparaison par rapport au sida, ou à la sida, avec aussi des créations artistiques très politiques, Et du coup, ce qui m'amène à une deuxième aussi question à rattacher, est-ce que du coup, vous avez aussi exploré la littérature en dehors de l'Europe? On commence à étudier le cancer de plus en plus en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie depuis longtemps. Voilà.
Oui, alors la mienne est vraiment une recherche littéraire basée sur une période précise de la littérature italienne. Donc, je connais un peu la littérature, mais plus européenne et américaine à la limite. Mais, par contre, pour ce qui concerne le discours politique, ce n'est pas du tout ce qui se passe avec le SIDA, en sachant que même avec le SIDA, l'engagement en Italie est bien moins fort qu'en France et ailleurs. Et puis, c'est ponctuel, il y a de l'engagement politique. Une des femmes qui font l'objet de mon analyse est médecin, donc par la suite elle a intégré le monde politique et elle se bat pour les cellules souches, pour la préservation des cellules souches, pour le droit à pour faciliter la greffe, enfin, mais c'est des initiatives ponctuelles qui ne font pas partie d'un mouvement collectif qui s'est créé au cours de...
Oui, et puis je ne sais pas comment ça se passe en Italie, c'est une crise j'imagine, de l'accès aux soins, enfin, de la crise économique générale, si on retrouve des éléments ou pas, non finalement dans la vie.
Non, pas beaucoup. C'est un terme qui arrive, mais voilà, j'ai quelques exemples en quelques. Mais, et c'est souvent aussi, encore une fois, plutôt au contraire, c'est un remerciement de le système public qui, malgré la crise et tout le reste, offre de...
Oui, moi j'avais deux remarques, enfin j'en aurais d'autres, mais j'en avais deux principales. Est-ce que vous vous êtes demandé, ou est-ce que dans l'analyse de ces récits, vous vous êtes posé la question de pourquoi ces personnes-là avaient écrit? Parce que, effectivement, par rapport à des questions qui sont bien connues de Marine Lévy, sur lesquelles elle a témoigné, qui sont la question de la temporalité, ou la question du monsieur d'avant qui est sur la pluralité des cancers, parce qu'effectivement, entre une leucémie de l'enfant qui touche quelqu'un de jeune, et la personne va devoir se construire, donc elle ne se reconstruit pas, mais elle se construit, et une personne qui a un cancer du côlon à 70 ans, quelle est l'optique du témoignage biographique? Ça, c'était un point que je trouvais important à souligner. Et deuxième point, vous parliez de témoins, ces témoins sur lesquels vous finissez votre exposé, ils sont témoins pour qui? Et on sent, pour moi, de l'expérience que j'ai, cette notion de témoignage, c'est aussi de témoignage d'espoir pour les nouveaux patients. Et donc, je n'ai pas senti cette dimension-là dans l'analyse que vous faites.
Oui, je pense que finalement, c'est aussi un peu la même question. C'est la première partie de ma thèse qui est en phase de rédaction sur laquelle je m'épanche en ce moment, donc sûrement dans 6 mois, je pourrais vous donner une réponse beaucoup plus précise, mais c'est vrai qu'il y a des pistes déjà que je vois qui se dégagent. Première chose, tous les écrivains que je prends en considération, ils sont 8, ils mettent en avant la valeur sociale de leur témoignage. Ils démarrent, Chizzano Kersani, il démarre en disant, je sais comment il est rassurant pour un nouveau malade de voir le chemin qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc il y a cette valeur d'exemple pour les autres, de partager avec les autres, de donner des informations, et aussi de... changer sans couper le rapport avec la famille, avec ses enfants, avec sa femme. Donc de raconter pour permettre aux autres de comprendre et savoir se rapporter au malade dans son cas, mais aussi pour aider les proches d'autres malades. Il est vrai que mon impression, et c'est un peu le fil que je suis en ces moments, c'est que très souvent ces témoignages font partie d'un parcours de construction ou de reconstruction. Je n'ai aucun cas de cancer d'enfant, mais c'est vraiment plutôt un exercice de mise en sens de la maladie qui a aussi une valeur personnelle très forte et qui est l'outil qui est trouvé par des personnes qui sont tous des journalistes, des écrivains pour eux-mêmes faire quelque chose de leur maladie et puis la partager pour les autres.
Merci. On va maintenant donner la parole à Gauthier. Changer de continent, changer de registre de soins.